Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Évangile de Luc, chapitre 15, verset 25, et nous allons donc nous entretenir sur le sujet et tirer quelques enseignements pratiques. Alors voilà ce que nous avons devant les yeux. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Alors nous sommes en présence d'un garçon qui est très en colère. Vous avez remarqué à travers les lignes, il ne vous a pas fait un grand étalage dans la circonstance, mais toujours est-il que les propos qu'il tient et la manière dont les choses sont présentées, il n'est pas content du tout. Il est véritablement même révulsé, hein, révolté, on ne peut pas dire autre chose. Alors c'est vrai que tout cela, ça s'inscrit dans ces parabole, dans les deux paraboles, enfin celle-ci, celle que nous venons de lire, il est question du fils aîné, et puis du fils perdu, le fils prodigue, précédemment. Elles sont imbriquées l'une dans l'autre, et finalement, eh bien, la réaction de ce deuxième, celui que nous avons pris ce soir, que nous avons choisi ce soir, c'est précisément en cause de l'attitude du premier. Parce qu'il ne comprend pas, il ne peut pas admettre que lorsqu'on est coupable, eh bien, on ne soit pas puni. Qu'il y a naturellement, eh bien, devant les fautes, quelque chose qui doit être appliqué avec rigueur pour que, peut-être, eh bien, avec la punition ou le châtiment, eh bien, là, il y ait véritablement une prise de conscience. Mais la prise de conscience, elle a été faite autrement chez ce fils prodigue. Et il n'a pas eu besoin de son père, il n'a pas eu besoin de son frère, il n'a pas eu besoin de d'autre chose, c'est tout simplement les circonstances de la vie qui l'ont amené, eh bien, à prendre conscience de sa folie, de ses aventures malheureuses, pour se dire à un moment donné, eh bien, j'ai fait tout ça. J'ai voulu la liberté et je me suis retrouvé dans l'esclavage. J'ai entrepris telle et telle aventure et tout cela m'a amené à la disette. J'ai tout perdu. J'ai tout, finalement, eh bien là, tout m'a quitté, tout m'a lâché en quelque sorte, et il fait le bilan à ce moment-là. Parce que le texte nous le dit, nous ne l'avons pas lu, mais le texte nous dit que dans l'épreuve, il s'est mis à réfléchir. Et qu'il s'est aperçu que tout ce qu'il avait, lorsqu'il était dans la maison paternelle, eh bien il l'a perdu, il ne lui restait plus rien. Ni argent, ni amis, plus rien du tout, même pas de quoi manger. Et nous voyons que le phénomène de son retour vers son père dans la maison paternelle est lié naturellement, eh bien, tout simplement à une prise de conscience. Une prise de conscience par lui-même. Et il s'est dit, mais pourquoi rester malheureux quand je peux finalement être heureux? Et il va faire cette tentative qui sera couronnée de succès, fructueuse et bénie. Il se dit, eh bien, moi j'irai voir mon père. Je lui dirai que je me suis trompé, que je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Alors peut-être m'accueillera-t-il dans sa maison, et peut-être je vais reprendre, eh bien, une place dans la famille. Et même si véritablement il veut me traiter en esclave, mon propre père, S'il veut me traiter en mercenaire, eh bien je l'accepterai parce que vaut mieux encore être mercenaire dans la maison de mon père que d'être dans la situation malheureuse, de détresse dans laquelle je suis. Et il va partir vers une nouvelle aventure, un retour, et peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, son père l'attend. Et il l'attend non pas pour le réprimander, non pas pour sévir contre lui, mais pour lui dire, eh bien voilà, tu étais parti, tu étais perdu, maintenant tu es revenu. Eh bien, je te prends tel que tu es, et sache une chose, c'est que je suis toujours ton père, et tu restes toujours mon fils. Alors, c'est une belle histoire, hein, l'histoire du fils prodigue. Mais ce qui était vrai pour le père, ça n'a pas été forcément, eh bien, compris ou acquis pour le frère aîné, c'est-à-dire celui dont on a parlé. Et il est furieux. Il se dit, mais c'est quand même pas possible. Il a fait les mille et une pirouettes. Il a dépensé tout l'argent de la famille. Il a vécu une vie de dépravé. Il a fait ceci et cela, etc., etc. Et peut-être que dans sa tête, il en rajoutait. Il se dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne comprends pas mon père. Parce que, finalement, il devrait avoir des paroles de rigueur et puis lui faire sentir, hein, que s'il revient à la maison, bien, il faut qu'il se tienne tranquille, hein, quoi qu'il en soit. Parce que il se compare. Et il se dit, mais moi, j'ai pas quitté mon père. Je n'ai pas fait les bêtises que mon frère a faites. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas dépensé l'argent, je n'ai pas été voir du n'importe qui et faire de n'importe quoi. Je suis resté bien sage. Alors, je mérite, quelque part, finalement, eh bien, tout ce que j'ai aujourd'hui, mais mon frère, véritablement, il n'en vaut pas la peine. Et je voudrais insister sur quelque chose qui va être, en quelque sorte, le fil conducteur de notre réflexion. Après avoir vidé son venin, en reprochant à son père d'avoir été ce qu'il a été, miséricordieux, rempli de compassion pour son fils revenu, après avoir vidé tout ce qu'il avait sur le cœur, toute cette aigreur et cette amertume, son père lui dira ces paroles, et c'est là-dessus que j'aimerais que nous réfléchissions. Il dira à son fils révolté, son fils en colère, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Voilà la réponse qu'il va donner. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il accueille celui qui est revenu perdu, mais qui est retrouvé maintenant perdu, il est sauvé. Il rentre tout à nouveau dans la maison. Celui dont il est question ce soir est un bon garçon, un brave garçon. Il n'a pas fait finalement de sottises. Et son père va être obligé de lui dire, mais écoute, tu es toujours avec moi. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Ton frère, c'est vrai, est parti, mais il est revenu, c'est le principal. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et ça va pour chacun d'entre nous. Et je voudrais faire la démonstration un petit peu à travers, eh bien, la réflexion que ce que dit le père à travers, eh bien, c'est quelques mots, c'est pas grand-chose. Lui montrant, eh bien, que celui-ci est resté dans la maison, et que tout lui appartient. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Qu'est-ce qu'il peut espérer de plus, puisque tout ce qui appartient au Père lui appartient aussi? Tout ce que j'ai est à toi. Nous constatons qu'il y a un état d'âme, ou plutôt un état d'esprit, qui est, en quelque sorte, eh bien, un esprit de rébellion et de révolte. Il est révolté pourquoi ce frère aîné? Pourquoi serait-il révolté? Pourquoi y aurait-il finalement cette tempête? Et cette tempête qui survient parce que tant que son frère cadet était parti au loin, on n'entendait plus parler de lui. Quand il est parti quelque temps auparavant, ça fait un scandale dans la famille. Il est parti là à un courir je ne sais quoi, et c'est vrai que ça fait un scandale. Il avait même demandé la moitié de ses biens, vous rendez compte, avant que l'héritage de son père, avant que son père meure. Le père n'est pas mort puisqu'on le retrouve ici. Et il avait dépensé tout cela. Et nous apercevons que c'est simplement lorsqu'il entend les serviteurs, un des serviteurs, quand il rentre des champs, lui dire « Mais ton frère est revenu, c'est la joie dans la maison !» Et lui, ça fait exactement l'effet contraire. Quand il entend que son frère est revenu, il va être pris d'une frénétique jalousie. Il va se dire « Alors zut, c'est pas normal une chose pareille. Il a fait les pires bêtises, et voilà qu'il revient, on lui donne tout. » Non, on lui a pas donné tout. On lui est en train de lui préparer un festin de la joie de l'avoir retrouvé. Son père va lui donner un vêtement neuf, il va lui donner des chaussures, il va lui mettre un anneau au doigt, signe d'une nouvelle alliance. Comprenez? une nouvelle alliance. Mais, de toute façon, s'il y en avait pour le père, s'il y en avait pour le fils aîné, il y en avait suffisamment pour le fils qui était revenu. Hein. Ça ne changeait rien, finalement, au bonheur de la famille et à l'avoir de la famille, à la fortune de la famille. Hein. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Puis on peut le multiplier comme ça. Jésus nous a donné une bonne leçon. Hein. Quand il y en a pour deux poissons et cinq pains, ben, il y en avait pour 4 000. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais toujours est-il que nous voyons l'état d'esprit dans lequel ce frère se trouve. À un moment donné, tout bascule dans sa vie. Il est peut-être fatigué de sa journée, il a travaillé dans les champs, etc., etc. Quelquefois, après un travail harassant, on n'est pas toujours de bonne humeur. Hein. Fatigué. Bon, on peut mettre ça à sa décharge, c'est vrai. Mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre parce que il refuse le bonheur. Il refuse le bonheur à son père. Il refuse le bonheur à son frère qui était perdu et qui est revenu. Mais il se refuse le bonheur à lui-même aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Ça peut nous arriver, nous aussi, d'être fatigués. Et puis d'être frustrés. Parce que vous remarquerez, si on peut dire que c'est vraiment de l'auto-frustration hein, qui lui arrive à ce garçon. C'est pas les autres qui le frustrent. Il se frustre tout seul. Tout simplement parce qu'il est jaloux. Tout simplement parce qu'il ne comprend pas qu'on peut être rempli de miséricorde lorsque il y a de tels événements, au lieu de juger, au lieu de critiquer, au lieu de dire ce qu'il a dit, eh bien, il pourrait peut-être avoir une autre attitude. C'est un refus du bonheur. Et je voudrais dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a certainement beaucoup de gens dans le monde, et peut-être qu'il peut y avoir aussi parmi les enfants de Dieu, des frères et des sœurs, des chrétiens, qui s'auto-frustrent. Oui. Parce que c'est toujours par comparaison qu'on le fait. Lui, il a ceci, moi, je n'ai pas ça, alors qu'il avait déjà tout. Et c'est curieux une chose pareille. Quelquefois, de voir le bonheur, la joie chez certains, ou l'avoir de quelques-uns, on se dit, mais c'est quand même pas normal. Lui, là, moi, je l'ai pas. Et ça peut nous amener, finalement, eh bien, à avoir des mauvais sentiments, à avoir des réactions qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est du traitement de fond, en quelque sorte. Alors, on peut en parler entre nous, mais je pense que c'est aussi un réel message d'évangélisation, ce soir, pour des gens qui, peut-être, eh bien, sont confrontés avec toutes sortes de choses et qui se bagarrent avec ça, qui ne voudraient peut-être pas être comme ça, mais qui sont toujours aux prises, en regardant, en écoutant de droite et de gauche, et qui vivent ce problème de jalousie, de cette frustration, et qui se refusent au bonheur, parce que finalement, ce que l'autre a, tu peux l'avoir aussi. Et le problème n'est pas une question de choses à l'extérieur de nous-mêmes, mais c'est souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça rend profondément malheureux. Il était profondément malheureux. Et tout ça parce que on vient de lui dire, ton frère est revenu. Quel frère? Ah ben, je l'avais oublié, celui-ci. Comprenez, il pouvait peut-être... Et là, ça lui fait pas plaisir. Il aurait pu se précipiter très rapidement, puisque il a entendu la musique, et on préparait un festin, ça fait du bruit quand même, et c'est inattendu, parce que le matin, rien n'était prévu, hein. C'est le soir que ça se passe. Et nous apercevons que, au moment où il entend de la musique, au moment où il voit cette agitation, il se demande pourquoi. Il se dit, c'est peut-être mon anniversaire, je l'ai oublié. Non, c'était pas pour lui, c'était pour l'autre. Et c'est peut-être là, justement, le problème. Quand c'est pas pour nous, et que ça nous fait pas plaisir que ça soit pour l'autre. Bon, passons cette histoire d'anniversaire parce que ça ne devait pas être ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand il entend un petit peu ce bouleversement dans la famille, et là qu'il apprend par la bouche d'un des serviteurs, « Viens, prépare-toi, la soirée va commencer et nous allons nous réjouir. » Parce que ton fils, ton frère qui était perdu, maintenant on l'a retrouvé, il est revenu à la maison. Et là, ça lui fait l'effet contraire. Autant le père va étendre ses mains pour... là, étreindre son fils qui revient, il va l'embrasser, il va lui donner toutes sortes de choses, il lui fait la promesse que ce soir même on va faire un festin pour lui, pour son retour, autant l'autre, ça le glace. Ça le rend malheureux. Ça le rend fou en quelque sorte. Il est frustré, tout simplement. J'aimerais aller un peu plus loin, on va lire un texte par exemple pour étayer un peu tout cela. Dans le prophète Ésaïe au chapitre 48, on va voir un peu ce qu'il en est parce que c'est bien, la Bible répond à cette question. Lorsque j'ai un cœur pincé, lorsque je fais des comparaisons, j'entends des choses qui peuvent me déplaire parce que ça ne me concerne pas moi-même et ça concerne l'autre, et ça me fait un effet, une impression qui n'est pas qui n'est pas bonne de ma part. » Alors, Ésaïe 48, versets 16 à 18. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle, et il apporte déjà la solution et la guérison, en quelque sorte, à des états d'esprit qui ne sont pas bons, qui sont mauvais et qui nous font souffrir, et qui font souffrir par contre-coup les autres. Écoutez bien, verset 16. « Approchez-vous de moi et écoutez, dit Dieu. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, et Dieu parle encore. Hein. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Ça vous rappelle ? Tu es toujours avec moi. Eh oui, j'ai été là, nous dit Dieu, mais Dieu est toujours là, quoi qu'il en soit, qu'on le voit ou non, on le verra pas, mais qu'on le sente ou le ressente ou non. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Écoutez la suite. Et ainsi, l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Dieu est venu pour nous sauver et non pas nous condamner. On est d'accord. Il est Rédempteur. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Peut-être il y a des situations dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu dis, mais tout pour les autres et rien pour moi. C'est frustrant, ça. Hein? Mais je t'instruis pour ton bien. Si je te dis ce que tu es, si je révèle l'état de ton cœur, c'est pas pour que véritablement te faire du mal, mais c'est pour que tu changes. Pour que véritablement tu prennes conscience, c'est que tu cries à ton Dieu et lui seul est capable, finalement, de te délivrer. Je parlais avec une personne, c'était hier matin, je crois, dans une situation très difficile. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans une profonde repentance. Et j'en suis tout à fait convaincu parce que je connais bien la personne. Et cette personne me dit, mais je voudrais tellement maintenant, je voudrais tellement que ça change dans ma vie, je voudrais tellement changer, mais je ne peux pas. Et c'est vrai que, quelquefois, comme tous les fils et les fils prodigues, on a tellement été loin, c'est qu'on a du mal à remonter la pente. Et le courant est très fort. Et de prendre conscience, de dire, mais Seigneur, j'y arriverai pas tout seul. Et c'est le début de la délivrance. Parce que tant qu'on pense qu'on va y arriver, on n'y arrivera pas. Tant qu'on pense qu'on est suffisamment fort, on n'y arrivera pas. Et je t'instruis pour ton bien. Il y a des circonstances dans notre vie qui sont meurtrissantes, qui sont affligeantes, mais elles sont là pour nous amener à lui, nous ramener à lui. Ça marchait avec le fils prodigue, ça ne marche pas avec le deuxième. Parce qu'il y a un problème, et on va le voir d'ici quelques instants. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre, parce que Dieu nous montre la route. Et voilà la réponse. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif à mes commandements, nous dit cette parole. » Eh oui, ça nous ramène. Mais écoute, si tu étais attentif, parce que je suis toujours avec toi, je ne t'ai jamais quitté, et sache encore, je te le répète, que tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu vas t'imaginer des choses? Pourquoi tu vas chercher des choses qui n'existent pas? Puisque je te dis que je t'instruirai et je te montrerai finalement la voie que tu dois suivre. Les conditions pour justement être délivré de ce brouhaha, de ce tumulte, de cette peine et cette souffrance à l'intérieur de nous-mêmes, et tout ça parce que nous faisons des comparaisons, eh bien c'est tout simplement notre attention, sois attentif, et l'obéissance. Eh oui. Seigneur, apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à être attentif à ce que tu me dis. Parce que c'est peut-être pas les autres qui nous disent ce que nous sommes. Peut-être qu'ils l'ont fait, ils l'ont dit, mais ça passe pas toujours. Et quand c'est Dieu qui nous dit, parce que Dieu veut nous voir heureux. Et ce garçon, il est en colère. Ce garçon, il est révolté. Il n'est pas heureux. Il est malheureux, on le voit. Et ce malheur ressort à travers sa violence. Ressort à travers ce qu'il est en train de mettre en pleine figure de son père, quelque part. Parce qu'il le juge, hein. On le voit, hein. Ton frère est de retour, nous dit le texte. Et ton père, ce soir, a tué le veau gras. Et il l'a retrouvé en bonne santé. Et là, il nous a dit qu'il s'est mis en colère. Il n'a pas voulu entrer, il a préféré rester dehors. Alors que tout le monde était dans la fête, lui, il a dit, moi, je boude. Je fais du... Comment vous dites? Non, vous n'allez pas me dire ça quand même. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais je t'en prie, viens. C'est ton frère, il est de ton sang naturellement. Alors il répond à son père d'une manière tellement cassante, tellement incisive. Il lui répond ceci, « Voilà tant d'années que je te sers. » Je vais mettre un peu le ton. Hein. « T'en compte, ça fait je ne sais pas combien de temps que je te sers. Tant d'années. Et je n'ai jamais transgressé tes ordres. J'ai toujours été un garçon bien gentil. Je t'ai toujours respecté. J'ai toujours fait au doigt et à l'œil ce que tu m'as demandé. J'ai toujours été finalement, eh bien, bon, disons, presque parfait. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Alors que mon frère de mécréant qui est revenu, alors tu fais la fête pour toute la maison. Tu invites tes amis, tu fais un festin. Et moi, tu me donnes rien. Mais si, parce qu'il avait tout. Il avait tout. Et quand ton fils, alors là, il va certainement, là, quelque part pulvériser son frère, parce qu'il dit, mais quand ton fils, faut pas oublier que c'était son frère aussi, hein. Et c'est un mépris. Quand ton fils, tu sais, ce mécréant, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et voilà le père qui lui répond, mais tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, mais c'est à toi. Et je voudrais quand même souligner, avant d'aller un petit peu plus loin, pour nous dire que nous, en tant que chrétiens, quel que soit ce que nous avons les uns et les autres en propre, dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, Dieu n'a pas de chouchou. Ça, faut se le dire. C'est toujours lui qui a la bénédiction, jamais moi. Ah ben, si on continue comme ça, on n'en aura jamais la couleur, hein. Ça, c'est sûr. Et puis ceci, et puis cela, c'est toujours au même que Dieu, eh bien, donne, etc. Non! C'est faux! Et ça, c'est vraiment le caractère et la mentalité de ce garçon qui va s'enfoncer dans sa frustration de plus en plus. Je ne veux pas regarder à celui qui est à droite ou à ma gauche. Je vais regarder au Seigneur et là, il va me montrer d'autres horizons qui seront mes horizons à moi. De grâce et de bénédiction. Tout simplement. Alors, ton frère, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, voilà, il est parti à la débine, hein. Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voilà, c'est ça. Et on sent que c'est tout son cœur qui est en train de vomir. Il y a de l'amertume, il y a de la bile, en quelque sorte. Eh oui. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Si tu étais attentif à ce que je suis, moi, ton Dieu et ton Sauveur. Alors, à ce moment-là, eh bien, tu verrais que ta vie serait comme le fleuve qui coule vers l'océan. Avec abondance, avec majesté, avec impétuosité, tu verrais que ta vie serait aussi une vie par l'esprit impétueuse. Comme un fleuve. Naturellement, mais tu ne sais pas le voir. Parce qu'au lieu de regarder à ton Dieu, tu regardes à toi. Et tu regardes aux autres. Il y a un autre passage, finalement, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, qui nous parle un petit peu de la même chose. On va faire une petite découverte, petite visite, mais là, c'est pas une découverte proprement dit, parce qu'on connaît bien les choses. Au chapitre 30 et au verset 15, et ça, vous connaissez le texte, mais c'est surtout la fin du texte qui est importante. Verset 15, « C'est ainsi, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et écoutez bien, la dernière petite phrase, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Le fils aîné ne le veut pas. Et il parlerait pas comme ça s'il voulait. Il ne le veut pas. Il est résolu à ne pas vouloir. Il s'est buté et il ne veut pas en sortir. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le vouloir vraiment. Est-ce qu'on est heureux quelquefois avec des traits de caractère que nous connaissons en nous-mêmes, que les autres remarquent, et dont nous souffrons tous les jours? Alors on est certainement enclin comme ce garçon par rapport à son frère le plus jeune, à le critiquer lui, parce que ça nous évite de nous critiquer nous-mêmes. Mais une chose qui est certaine, c'est que quelque part, à ce moment-là, Dieu va nous demander une chose, sois attentif, obéis, mais veux. Engage ta volonté réellement, alors à ce moment-là, je pourrai faire quelque chose pour toi. Le veux-tu vraiment? Veux-tu être guéri, dira Jésus à l'aveugle de Bethesda. Parce que le fruit, finalement, et le fruit de ce vouloir, c'est la tranquillité, c'est le repos, le calme et la confiance. Qu'est-ce qu'on est beaucoup plus tranquille quand notre vie est en paix à l'intérieur de nous-mêmes, quels que soient les autres, quel que soit finalement ce qu'ils ont fait, quelquefois ce qu'ils ont dit même, peut-être même à notre rencontre, mais le repos et la confiance, la tranquillité, ça c'est quelque chose d'important. Il n'était pas tranquille ce garçon. Et il était en train de faire ressurgir des vieux démons. Parce que c'était pas son père qui était en cause, c'était pas son frère cadet qui était en cause, c'était lui-même dans cette affaire. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors que vous aviez la possibilité de dire, mais Seigneur, je le veux. Et vous savez, c'est pas toujours facile de vouloir. Parce que c'est faire force devant notre nature, parce que nous sommes comme nous sommes. Et le Seigneur nous a choisis, nous a sauvés. Non pas parce que nous sommes des anges, mais il nous a pris tels que nous sommes. Mais la grande différence et la grande ambition de Dieu, c'est que nous changions. Voilà, tout simplement, que tu le veuilles, que tu le désires, le vouloir vraiment. Parce que on sait très bien que le contraire de la tranquillité, du repos, de la confiance et tout le reste, c'est l'agitation et le trouble. Ce garçon était parti pour encore, certainement encore pas mal de temps pour être troublé. Hein. Surtout avec la revenue de son frère. Hein. Ah là, ça devait être difficile, parce qu'il fallait après cohabiter avec son frère. Comment allait-il le vivre? Loin du cœur, loin des yeux, très bien, il fait ce qu'il veut, mais il me laisse tranquille. Je vais pas à me soucier de lui, c'est son problème, il a choisi, maintenant qu'il emporte les conséquences. Mais là, il va falloir qu'ils vivent sous le regard du père dans la même maison. Et s'ils n'ont pas mis les choses au point, je peux vous dire que c'est la guerre. Hein. C'est le conflit et le feu tous les jours, hein, au quotidien, l'agitation et le trouble. C'est le bon sens du contentement. Seigneur, je sais qu'il y en a d'autres qui ont ceci et cela. Il y en a d'autres qui sont autrement que moi. Mais donne-moi de me contenter de ce que j'ai. Donne-moi de vivre avec ta grâce, tout simplement. Mais avec l'état d'esprit légaliste de ce garçon, il ne pouvait pas vivre dans la grâce parce qu'il ignorait ce que c'était la grâce. Vous savez, si on veut que Dieu nous fasse grâce, il faut faire grâce aux autres. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, et ça, c'est écrit noir sur blanc, hein, il faut pardonner aux autres. Hein. Votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos péchés si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé. Pas moi qui l'ai inventé, sermon sur la montagne, et je crois que on l'a à plusieurs reprises, hein, de la bouche même de Jésus. On va aller voir encore un autre texte, si vous voulez, 2 Samuel, parce que c'est une petite étude en quelque sorte, mais bon, ça illustre un petit peu le propos. 2 Samuel chapitre 12 et au verset 7 à 8. On va voir ce dont il est question. Alors, vous savez que David était un homme de Dieu extraordinaire. Mais un jour, comme on dit, il s'est pris les pieds dans le tapis, mais alors gravement, hein, à travers un adultère, à travers un message éhonté et à travers un meurtre. Donc il a fait les trois en même temps, hein, pour se débarrasser d'une situation dans laquelle il était tombé et il ne savait pas comment s'en sortir. Et là, Dieu va envoyer un prophète qui s'appelle Nathan. Et le prophète Nathan est venu vers le roi David, et comme David est en train de faire des comparaisons avec une image, une petite parabole qui est au-dessus, d'ailleurs vous pourrez la lire, hein, c'est la brebis, l'histoire de la brebis, David qui pensait être juste, un peu comme le frère aîné, alors que finalement il savait très bien où en était sa situation morale et spirituelle, le prophète va lui dire, tu es cet homme-là, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est toi le coupable, David. C'est pas la peine de dire et de trouver des prétextes et de trouver des raisons de ceci et cela, ça ne tient pas. Tu es cet homme-là, tu es le coupable, David. Ainsi parle l'Éternel, poursuit le prophète, le Dieu d'Israël. Et Dieu rappelle à David ce qu'il était. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül, le roi, l'ancien roi. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et la suite est intéressante. Et si cela avait été peu, j'en aurais encore ajouté. Dieu, dans cette affaire, se présente comme le père de la parabole. Tu es toujours avec moi, hein, et on connaît la relation que David avait avec son Dieu, hein. Il nous est dit que David était, selon le cœur de Dieu, l'ami de Dieu. Tu es toujours avec moi, et ce que j'ai est à toi. Et Dieu va reprendre David, parce qu'il mérite d'être repris, mais c'est Dieu qui le reprend. Et il lui dit, mais si ça avait été peu, David, j'ai fait de toi un roi alors que tu n'étais rien. Je t'ai donné des richesses, je t'ai donné un royaume, je t'ai donné la puissance, je t'ai donné maintenant tout ce qu'un homme peut désirer, c'est-à-dire être au sommet d'un peuple. Je t'ai donné Juda et Israël, et si ça avait été peu, c'est comme si Dieu venait avec des larmes dans les yeux et lui dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je pourrais faire encore pour gagner ton cœur et gagner ta repentance, t'amener pour que tu puisses recevoir mon pardon. Si ça avait été peu, je ne t'aurais encore donné davantage. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour du Père vis-à-vis du Fils aîné. Ce que j'ai, tout est à toi. Alors pourquoi tu t'es parti dans cette aventure où tu t'es discrédité, tu t'es fait du mal toi-même, tu t'es discrédité vis-à-vis de ton peuple. Tout le monde rit de ton histoire. Tu es un menteur, David, alors que tu es un homme de vérité. C'est pour ça qu'après, il écrira le psaume 51. Il dira, mais Seigneur, Fais rentrer la vérité dans mon cœur, lave-moi avec de l'hysope. Ah oui, rends-moi pur, Seigneur. Là, il va y avoir une véritable repentance. Hein. Et ça va marcher pour David. Ouais. L'insatisfaction naturelle des hommes. David avait tout et il n'était pas encore content. C'était véritablement la période de sa vie où il a chopé. Hein. Mais ce qui est formidable avec un David, c'est qu'il se rattrape. C'est qu'il demande pardon, il revient. David, c'est le fils prodigue. Hein. C'est le frère cadet hein, dans la parabole. Et il va dire, mais moi maintenant, je peux pas rester malheureux comme ça. J'ai tué un homme qui était le mari de la femme que j'ai prise. Je me suis fait finalement, eh bien là, menteur devant mon peuple. Puis j'ai commis une chose qu'il ne fallait pas parce que j'ai pris la femme d'un autre. Elle était mariée. Il va se dégoûter à un moment donné. Et David, parce qu'il se dégoûte, il va mettre ça devant Dieu en disant, Seigneur, lave-moi. Je suis sale. Je suis rempli de souillures. Je peux pas rester comme ça. Moi, David, je me connais. Un David ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Seigneur, délivre-moi de mon péché. Délivre-moi de ma souture et délivre-moi de mon état d'esprit. Eh oui. Tout simplement. En quelque sorte, eh bien là, c'est, il a besoin finalement qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il ressent cette insatisfaction naturelle. Parce que c'est pas l'homme spirituel qui parle à ce moment-là. Son cœur est complètement transpercé par des mauvaises choses. La raison peut-être quelquefois lorsque nous sommes malheureux et que nous sommes dans l'état de David ou l'état du frère aîné là qui pour l'instant ne bouge pas trop, ce sont les caprices. Nous pouvons avoir des caprices même quand nous avons 30 ans, 50 ans, même à 60 ans, il y a encore des gens qui font des caprices, non? Oui, peut-être quand on vieillit, on en fait encore plus qu'avant. peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, je vous dirai ça dans quelques années. Enfin bon, peut-être que j'en ai aussi moi-même. Et c'est le mépris de la... Je vous le dis, hein, vous le dites pas à personne, enfin vous le regardez pour vous. C'est le mépris de la grâce de Dieu, en quelque sorte. Dieu lui avait donné beaucoup, et il avait méprisé tout cela, pauvre David. Mais ne jugeons pas David, parce qu'il va se repentir. Au contraire, c'est un exemple pour nous, David, de tomber et de revenir. Il a récupéré la grâce de Dieu. Il n'a pas méprisé, au bout d'un certain temps. On voit Matthieu maintenant, chapitre 23 et verset 37. Ah! Il y a encore une histoire là. Matthieu, chapitre 23 et verset 37. Ah, vous connaissez cette histoire. Là, c'est pareil. Ça touche aussi notre réflexion. Jérusalem, Jérusalem, c'est Jésus qui parle, hein, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous ne l'avez pas voulu. Jésus pleure à ce moment-là. Jésus a pleuré deux fois, au moment de la mort de Lazare et au moment où il parle à Jérusalem, la ville de Dieu, sa ville chérie. C'est dans cette ville-là qu'il va être crucifié. Et il va pleurer, il va dire les choses, mais Jérusalem, mais combien de fois j'ai voulu vous parler, combien de fois par la démonstration de ma grâce, en sauvant, en guérissant, en faisant des choses extraordinaires. Et pourtant tu as tué. Tu as tué des hommes qui étaient les prophètes de Dieu. Tu les as lapidés. Et moi j'ai voulu vous rassembler selon l'image que quand il y a un danger qu'on ne voit pas, alors la poule, elle fait en sorte de rassembler tous ses poussins sous ses ailes pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils soient mis à l'abri. Et malgré tout le déploiement de la grâce de Dieu par rapport à Israël dans l'Ancien Testament et par rapport à ce message évangélique extraordinaire qui normalement est censé de rassembler les hommes autour du Messie d'Israël, il est dit « mais vous ne l'avez pas voulu ». C'est terrible, hein ? Vous avez laissé passer l'occasion en quelque sorte. Et moi je crois qu'il y a des occasions que Dieu nous donne de changer. De changer au niveau de notre tempérament, de notre caractère. Ça peut arriver à tout le monde d'être jaloux. Ça peut arriver à tout le monde d'être violent. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des emportements, mais ça, ce n'est pas à juger. Mais une chose qui est certaine, c'est de rester dans cette situation. Veux-tu changer ? Veux-tu laisser le Saint-Esprit maintenant te transformer, te changer ? Soyons des David qui se laissent reprendre par Nathan, enfin surtout par l'Esprit de Dieu à travers la bouche de Nathan. C'est surtout ça, hein. Et là, nous voyons que pour Israël, pour Jérusalem, il y a quelque chose comme un entêtement. comme une obstination, et cette obstination et cet entêtement n'a d'autre source que tout simplement, eh bien, l'orgueil de la résistance. Je ne prierai pas, je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout. C'était l'histoire du fils aîné. Il n'a pas voulu rentrer. Il s'est mis en colère et il a vidé son sac, en quelque sorte. Il en a mis plein la figure à son père, mais il n'a pas capitulé. Hein. Il ne voulait pas parce qu'il y avait de l'orgueil de résistance. Ne pas vouloir céder. Et vous savez, ne pas vouloir céder, eh bien, ça entretient notre propre misère. Parce que quand Dieu le dit, et quand il nous dit, voilà, je voudrais faire ceci et cela pour toi, je voudrais tellement que tu me ressembles, dit Jésus, que tu portes mon image, ça se fait avec le temps, hein, bien sûr, mais que tu portes, que tu sois ma ressemblance. Alors à ce moment-là, si nous disons non, ben nous continuons à être misérables. On n'a pas été appelés à être moralement misérables, même physiquement, matériellement misérables. Et il y en a qui sont renfermés finalement de cette misère, ils se disent, mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quelquefois, eh bien, nous n'avons pas saisi certaines choses. Alors nous prions à Dieu en disant, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, ceci et cela, enfin toutes sortes de choses de cette manière, hein, naturellement. Et nous ne comprenons pas qu'il y a un rapport de cause à effet. Si nous sommes obstinés, si nous sommes têtus, si nous sommes finalement, eh bien là, à dire, eh bien, il n'est pas question que je baisse les bras, alors, eh bien, on passe à côté de la bénédiction et on passe à côté de Jésus, l'histoire de Thomas que nous voyons maintenant. Ah, il a failli perdre tout, hein, Thomas. Thomas, c'est dans Jean, on va lire l'histoire. Et c'est quand même assez évocateur, hein, parce que il y a quand même un sens qui nous montre que c'est une affaire de caractère, de tempérament, et le Seigneur est venu pour nous sauver et pas pour nous perdre. Écoutez, Jean, chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux, avec les autres apôtres, lorsque Jésus vint. Jésus vint. Jésus revient. Après sa mort, et il est ressuscité. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main de ce côté, je ne croirai point. Et puis, c'est passé quelque temps, il a réfléchi, hein. 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux, Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Thomas, tellement déçu, tellement désabusé de ce qu'il a vu Jésus mourir. Et il se dit, c'est pas possible qu'on ait crucifié mon maître. C'est pas possible qu'on lui ait fait tant de mal. Et là, sa foi est complètement par terre. Il est complètement désillusionné. Il ne sait plus où il en est rendu. Il devient incrédule. Jésus va lui dire, ne sois pas incrédule. Et il ne croit pas à la résurrection. C'est ça, il bute qu'un mort, eh bien, il ne ressuscite pas. Mais Jésus, non pas seulement est mort, mais il est ressuscité parce qu'il est Dieu. Et là, ses compagnons sont réunis dans une maison. Et ils ont vu Jésus, parce que Jésus était au milieu d'eux. Un jour, ils rencontrent Thomas en disant, nous avons vu le Seigneur. Mais c'est pas possible que vous ayez vu le Seigneur. Il va rester sur ses préjugés. Il va rester finalement sur son incrédulité, sur ses doutes mortels, parce qu'ils sont mortels pour lui. Et puis, il va réfléchir. Il va dire, mais mon petit dit la vérité, hein, mes amis, là. Alors, il va se retrouver 8 jours après avec eux. Et là, Jésus va dire à Thomas, regarde, tu vois, regarde ce que tu as dit. Regarde maintenant, tu peux voir, tu peux constater. Et là, Thomas, à ce moment-là, il va faire comme le fils prodigue. Il va faire volte-face. Après avoir été dans les affres de l'incrédulité et des doutes terribles, il va prononcer cette parole extraordinaire et formidable que nous avons dans l'Évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Eh oui. Il aurait pu s'entêter, il aurait pu s'obstiner comme il l'était au départ. Mais quand on s'obstine et quand on s'entête, on est malheureux. Et là, il ne voulait pas rester malheureux. Il a cru que c'était possible pour lui de croire comme les autres. Et là, il a fait la rencontre de Jésus. Jésus lui dit, bah, écoute, maintenant, ça y est, je suis là maintenant. Tu peux mettre tes mains dans mon côté. Tu peux mettre tes mains dans les miennes. Et tu vas voir les marques des clous. Je suis bien mort. Mais « Je suis mort, mais je suis ressuscité !» Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est pour nous, ça, hein? Eh oui, c'est pour nous. Parce que vous savez, l'attitude de Thomas, c'est l'isolement, c'est la solitude. Il avait des amis, il avait ses disciples, il avait ses compagnons. Pendant 3 ans, ils ont été avec Jésus. Et il s'isole, et on ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas nous mettre de côté en disant « je pleurais ma peine, et puis ma déception va peut-être passer à un moment donné ». Non, il s'est isolé, il est encore malheureux. Il s'est mis à part, il s'est mis à l'écart. Il y a un verset dans la Bible, je ne me souviens plus où ça se trouve exactement, mais il nous est dit que celui qui se tient à l'écart ne cherche que ce qui lui plaît. Donc, nous ne restons pas malheureux. Approchons-nous de Jésus, et là où véritablement, eh bien, avec les autres. Puis je termine. Cette attitude d'auto-frustration, parce qu'il s'est frustré tout seul. Il pouvait toujours accuser les autres que c'était son père, que c'était son frère. Non, c'est de l'auto-frustration qui l'a rendu malade, qui a développé chez lui le mécontentement. Il ne pouvait pas être heureux. Il est tombé dans l'amertume et dans une certaine aigreur que nous avons lue. Quand Dieu dit, et je finis, « Tout ce que je possède » est aussi pour toi, c'est une autre version. Tout ce que je possède, nous dit Dieu, tout ce que je possède, et Dieu possède tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout à recevoir par la foi, et Dieu est riche. Dieu ne compte pas. Lorsqu'il donne, il donne. C'est à la mesure de notre foi, selon ce que l'on peut dire, l'analogie de la foi. Dieu nous dit et nous répète aux uns et aux autres, tout ce que je possède est aussi pour toi, c'est aussi à toi. Vous savez que nous sommes plus riches que nous le pensons, mais notre main est trop courte, la main de la foi. Les faiblesses de notre cœur, tout notre environnement, les comparaisons, les sentiments que nous pouvons éprouver, les préjugés, les impressions aussi. C'est triste les impressions, parce qu'on a des bonnes impressions, mais quelquefois on peut en avoir des mauvaises, jusqu'au jour où on ouvre les yeux, on se dit « mais je me suis drôlement trompé ». Waouh ! Je pensais que c'était comme ça et c'était pas comme ça. Alors, pourquoi nous priver du meilleur? Tout ce que j'ai est à toi. Profite, saisis, ouvre tes bras et tes mains et prends, cède, viens et prends. C'est terrible d'être malheureux quand on peut être heureux. On n'était pas heureux peut-être avant sans connaître Jésus. Maintenant, que l'on connaît Jésus, pourquoi serions-nous et demeurions-nous malheureux, puisque nous avons tout en lui? Ouais, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi, près de toi. Vous connaissez, on pourrait citer des versets à l'appui de cela, de cette affirmation. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Alors, prends, ce soir, les uns et les autres, parce que ça vaut pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est vrai, mais ça vaut aussi pour nous ce soir. Ça vaut aussi pour moi, c'est vrai, je ne veux pas m'exclure, c'est pas parce que je le dis, mais c'est parce que j'en ai besoin aussi, de dire, mais Seigneur, je vis dans la pauvreté, je vis dans le trouble, dans l'agitation, mais Seigneur, tu me dis ce soir que je pourrais être heureux, c'est vrai, mais bien sûr que je peux être heureux. Il suffit d'ouvrir tout simplement son cœur et d'entendre ces paroles. Moi je crois que les paroles du Père à son Fils, révolté, rebelle, c'est aussi les belles paroles de l'Évangile et qui nous sont données encore ce soir pour chacun d'entre nous. Ça, c'est quelque chose qui résonne à mes oreilles, qui résonne au fond de mon cœur. Oui, Seigneur, moi je ne veux pas une vie médiocre, je ne veux pas une vie au rabais, je ne veux pas me faire du mal en ceci et cela, mais je veux véritablement être riche de ta richesse, alors que le Seigneur nous bénisse. On va s'incliner quelques instants et on va demander au Seigneur qu'il passe dans les rangs, qu'il passe dans nos vies et que véritablement, eh bien, il fasse quelque chose pour que nous comprenions combien notre Dieu est merveilleux, combien il est bon, et qu'il est beaucoup plus prêt à nous bénir que nous de recevoir sa bénédiction. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Elle nous concerne tous, Seigneur, sans exception, à différents domaines, sur différents points. Et c'est vrai que souvent nous débattons de différentes manières. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as rappelé ce soir que si nous venons avec un cœur sincère, si nous venons avec un cœur ouvert, même si nous sommes loin de tout comprendre, eh bien tu peux nous débarrasser de nos calculs, tu peux nous débarrasser de nos comparaisons, tu peux nous débarrasser de nos analyses, en effet qui nous mettent, en effet, Seigneur, à mesurer notre frère ou notre sœur ou notre prochain, en pensant, Seigneur, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas vraies d'abord, des choses qui véritablement nous rendent de plus en plus malheureux. Il y a des choses que nous rencontrons, des situations que nous frôlons parfois dans la vie, et puis elles réveillent des mauvaises choses dans notre cœur. Mais c'est pas les choses en elles-mêmes. C'est peut-être parce que nous-mêmes, nous avons des prises au fond de nous-mêmes et que nous laissons faire l'adversaire, parce que lui, c'est un expert de la manipulation de nos âmes, de nos pensées, de nos consciences et de notre volonté. Seigneur, je te demande de nous visiter. Nous n'avons pas ce message pour rien, mais ce message, il est fait pour chacun d'entre nous. Alors, ce n'est pas une affaire de jugement, ce n'est pas une affaire de critique, mais c'est une affaire, Seigneur, qui nous parle, que tu nous interpelles les uns les autres. Et si nous voulons, eh bien nous changerons le cours de ce que tu disais à Israël, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien nous voulons croire qu'en effet, Seigneur, tu le veux, et moi je te dis, Seigneur, je le veux aussi, malgré ma faiblesse, ma petitesse, malgré, Père éternel, ce que je suis. Tu nous bénis ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.